Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Salut Jason!
Hey, salut Tristan, comment vas-tu?
Ça va super bien, toi?
Ben oui, puis je t'entends un peu mieux aujourd'hui. Ben c'est magnifique, c'est magique.
Fini l'histoire de téléphone. C'est fini cette histoire-là.
Ben oui, on n'est pas dans la même pièce. On est même à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Mais la technologie là, nous permet d'avoir une qualité sonore un peu supérieure aux deux derniers épisodes.
Oui, absolument. Et tu sais, une petite parenthèse bien rapide, là, Jason, pour les fans de son, puis qui veulent. Vous aussi, vous voulez vous partir un podcast, là, c'est vraiment pas compliqué. Je me suis procuré un petit micro, là, vraiment pas trop cher, avec une boîte de son audio box USB 96. On branche ça, voilà, dans l'ordi, ça fonctionne, et puis on a une qualité sonore pas studio professionnel de fou, mais ça fait la job.
Ben, c'est en masse pour faire une balado-diffusion, un podcast comme on fait, là.
Exactement.
Hey, donc, c'est excellent.
C'est cool. On est reparti. Hein, on a eu un petit moment entre les deux derniers épisodes de l'Halloween et maintenant.
Ben oui.
Comme tu l'as dit, je suis dans le déménagement en ce moment. Hein, et puis là, ça y est, ça se place, les choses se placent et j'ai mon kit maintenant de studio. Donc, on va pouvoir se remettre à enregistrer des dossiers bizarres.
Ben, excellent. Alors, on y va avec notre sujet pour le troisième épisode de la troisième saison.
Oui, absolument, Jason. Tu vas nous parler de quoi?
Ben, en fait, là, ce matin, on n'est même pas le matin en plus, on enregistre ça puis c'est l'après-midi. Je sais même pas pourquoi j'ai dit le matin. Je pense que la journée est longue. Hey, aujourd'hui, à ce moment-ci, pour ce troisième épisode, tiens, vas-y, on est intemporel de toute façon, on s'en va dans l'ex-URSS. On s'en va ce qu'on appelle maintenant la Russie, qui était l'Union soviétique en 1959. 1959, Tristan, là, hey, c'est la guerre froide. C'est la course à la conquête spatiale et l'URSS à cette époque-là, elle est opaque. Les informations ne rentrent pas et ne sortent pas de l'Union soviétique. C'est un terreau fertile aux théories de complot, à l'imaginaire des gens qui sont en dehors de l'Union soviétique à se demander que se passe-t-il. Mais d'autant plus, ce qui s'est passé en 1959, Tristan a connu une deuxième conclusion en juillet de cette année.
Ah oui.
Ah, 61 ans plus tard, on en parle encore.
On a obtenu une nouvelle réponse, d'autres explications en juillet de cette année.
Oui, ben on va terminer avec ça, mais en juillet 2020, on a déposé un deuxième rapport d'enquête pour cet événement-là. Et là, il y a plusieurs personnes qui vont savoir de quoi je parle. On parle de l'affaire du col Dyatlov.
Dyatlov.
Oui, exactement. En fait, Dyatlov, c'est le nom d'une des personnes, une des victimes de ce triste événement, qui était celui qui dirigeait une excursion. Il s'appelait, excusez mon russe, Igor Alexeyevich Dyatlov. Et on a nommé l'endroit en son honneur après les événements.
D'accord. Mon Dieu, ça semble plutôt tragique.
Ben oui, hein, c'est extrêmement tragique, Tristan. J'ai versé une larme.
Mon Dieu.
Ben
mon
oui.
Dieu.
Mais je suis allergique au chat.
J'ai vu une image, je dois t'avouer, Jason, je suis allé voir sur Google juste avant. Et j'ai aperçu l'image des gens qui escaladaient une montagne.
Oui, ben en fait, c'est une excursion. On va se remettre dans le contexte. On a 10 jeunes, 9 jeunes, un petit peu plus âgés. Les âges là, varient entre 20 et 38 ans. 9 jeunes, un plus âgé, qui décident de partir en excursion. Alors, eux, ils décident de partir en excursion dans la région de l'Oural. Et c'est une excursion d'à peu près une dizaine de kilomètres environ, quelque chose autour de ça, en ski de fond, en ski alpin. C'est des jeunes très en forme. C'est des étudiants ou des diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, qu'on appelle aujourd'hui l'Université fédérale de l'Oural. Et c'est un peu comme... T'as étudié, toi, Tristan? T'es allé au cégep? Peut-être il y a des gens qui vont à l'université ou au collège, peu importe, là, de la région du monde. Mais à un moment donné, il y a des crédits faciles, hein? Là, on nous dit « Ah oui, fais le cours de méditation, si tu dors pas, t'as tous tes crédits. » Puis là, ben, on est content parce que ça nous rajoute des crédits. Ben, eux, ils allaient chercher des crédits, étant donné que c'était des sportifs qui étaient très habiles en ski pour faire de l'orientation en forêt. Eux allaient chercher des crédits Et alors, ça allait être crédité à leur cours. C'est la raison pour laquelle, durant toute l'excursion, ils ont gardé des journaux. Chacun avait son journal, prenait des photos, prenait des notes de ce qu'ils faisaient dans la journée où ils étaient rendus, des notes d'orientation. Donc, pour eux, c'était important de faire ça parce que ça faisait partie, pour certains du groupe, ça faisait partie de leur cursus scolaire. Ça allait leur donner des crédits supplémentaires.
Ah, d'accord. C'était vraiment dans le cadre pédagogique. Et on parle ici de jeunes adultes, comme tu disais.
Oui, exactement. Donc, de 20 à 23 ans environ pour les jeunes. 24 ans, le plus vieux des plus jeunes. Et un plus âgé, Monsieur Alexander Zolotaryov, voilà, qui a 38 ans. Lui, on dit que c'est un méchant moineau. Il aurait déjà écrit à 38 ans son autobiographie, mais a rajouté beaucoup de fantaisie sur son service militaire et un paquet de trucs comme ça inventés dans son autobiographie. Donc, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est juste que c'est un personnage coloré. Il est un peu plus vieux que les autres, se tient avec des plus jeunes, et il fait partie de l'excursion. Les autres ont 24 ans et moins.
Ah, d'accord, d'accord. Et 10 kilomètres...
En fait, le but de l'expédition, c'est d'atteindre Ortorten, une montagne située à 10 kilomètres au nord du lieu où se déroule le drame. Le drame du col de Dyatlov. Donc, c'est l'objectif. On veut se rendre au sommet de la montagne Ortorten et on a une situation qui se passe quand on est à peine 10 kilomètres de l'objectif. Situation qui fera... 9 morts sur le groupe de 10. Il n'y a pas de témoin parce que le 10e a décidé, lui, d'abandonner au tout début de l'excursion parce qu'il fit la peau. Il était malade. Donc, pour des raisons de santé, il a décidé. Yuri Efimovitch Yudin abandonne, lui, au tout début de l'expédition parce qu'il est malade. Alors, il y a 9 jeunes ou 9 personnes qui partent en groupe. Ski de fond, matériel de survie. On va dormir en forêt, évidemment. On va dormir là, durant le trajet. Et on s'en va, on est neuf, on s'en va faire une excursion. C'est une excursion qui est considérée ou qui est qualifiée de difficile, catégorie 3, si on veut, là, sur une échelle de 3. Donc, très difficile, mais c'est des jeunes qui sont expérimentés, qui sont très en forme, qui sont reconnus pour être très habiles dans ce genre de situation-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude.
Est-ce qu'on sait, on était à quel moment de l'année?
Oui. Ah, ben voilà. Alors ça se fait au tout début, en fait, à la fin du mois de janvier, mais le drame se passe au tout début du mois de février. Alors, on dit là, que les événements dramatiques se seraient déroulés, et on dit « se serait » parce qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui était là, entre le 1er et le 2 février 1959. Alors, on est en plein hiver, évidemment. L'hiver est, dans l'Oural, c'est un hiver qui est extrêmement rigoureux, extrêmement dur. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit du 1er au 2 février, mais ça s'est terminé avec le décès des 9 randonneurs. Alors, c'est ce qu'on va explorer un petit peu aujourd'hui.
Ah ben, je connaissais pas du tout cette histoire et... Il y a quelque chose d'épeurant là-dedans, tu sais, dans l'introduction du sujet, là, comme ça.
C'est mystérieux.
C'est ça, puis tu sais, quand on part à l'aventure, quand on va faire une escapade en forêt, quand on monte une montagne et qu'on est seul, hein, tu sais, quand il y a personne qui nous surveille et tout, on a toujours peur, tu sais, de le fameux accident, tu tombes sur une roche, tu te fais mal, tu tombes dans la falaise, puis là, il n'y a personne qui est là pour t'aider.
Pas de signal, pas de moyen de communication, cellulaire brisé, plus de batterie ou peu importe. Eux sont en 1959, là. Ils n'en ont pas de ces moyens-là. Ils n'ont pas Google Maps, ils n'ont pas, de signal cellulaire, pas de Facebook, pas de moyen de communiquer. Ils sont seuls dans la nature, là. Vraiment seuls. C'est un endroit, c'est... Il n'y a rien, là. Il n'y a pas rien autour. Il y a quelques populations autochtones, les Mansi, mais c'est tout. Il n'y a pas d'agglomération de population, il n'y a rien. On est vraiment dans la nature sauvage, avec aucun moyen de communiquer. Alors, eux sont vraiment laissés à eux-mêmes, autant d'un point de vue technologique en 1959, qu'il n'y a pas de population autour. Alors, ils sont très, 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 très seuls. Et alors, tout ce qu'on sait, c'est que du 25 janvier, ils sont partis, en fait, ils sont arrivés en train à Ivdel, une ville située au centre de Sverdlovsk. Ils prennent un camion jusqu'à Vizhay et c'est le dernier village vers le nord où ils vont commencer à marcher. Et leur excursion commence à ce moment-là, le 27 janvier.
OK, le 27 janvier.
Alors, le 27 janvier, c'est le moment où ils mettent le pied dans la nature, où vraiment, là, ils vont quitter... la civilisation et se diriger vers le sommet de la montagne qu'ils veulent atteindre.
D'accord, ça ressemble un peu à l'histoire du Seigneur des Anneaux. Il faut atteindre le pic de la montagne.
Oui, sauf que dans leur cas, à eux, ça a été... c'était une simple montagne et ça devait être plutôt... je dirais pas facile, mais ça devait pas être non plus mortel comme excursion pour des gens qui avaient l'expérience qu'eux avaient.
Ouais, j'imagine qu'on a une panoplie d'hypothèses.
Ben oui, puis les hypothèses, écoute, il y en a 75 de recensés des hypothèses, puis c'est pas des blagues, là. Il y a vraiment 75 hypothèses. J'ai fait l'erreur de faire imprimer les hypothèses en pensant que c'était un document de 2-3 pages. Je me suis retrouvé avec un document de 27 pages recto verso. Donc, on fera pas le tour, ben oui, on peut les nommer, mais on fera pas le tour des explications de chaque hypothèse. C'est ridicule, là. C'est beaucoup trop, mais... On va quand même faire le tour de certaines hypothèses les plus populaires. Mais là, on va y aller avec les événements. Alors, on sait, le 25, on part, on arrive en train à une ville. De cette ville-là, on part en camion parce qu'il n'y a pas de voie ferrée vers le dernier village avant d'arriver dans la nature sauvage du Nord. Et là, le 27, c'est à ce moment-là où on dit aux gens du village, « Hey, merci de nous avoir accueillis. Bye-bye. On y va, on s'en va à la montagne. On se revoit au début du mois de février, quand on sera sur le chemin du retour. » Alors, notre gang d'expédition part. Notre premier quitte à ce moment-là, hein, celui qui décide d'abandonner parce qu'il ne file pas bien, parce qu'il ne va pas bien, abandonne à ce moment-là. Alors, il y a officiellement 9 personnes qui partent à ce moment-là, le 27, vers le nord. Et ce sera la dernière fois que ces gens-là seront vus vivants. Ce qui arrive... en fait, là, Tristan, on s'attendait à avoir des nouvelles de ces gens-là. On s'attendait à avoir des nouvelles, j'essaie de ne pas me tromper, je pense que c'était le 12 février. Est-ce que c'est le 12 février? C'est le 26 février qu'on commence les recherches officiellement. Le 12 février, voilà. Le 12 février, on s'attendait à recevoir un rapport de ces gens-là. Donc, pour leur cours, ils devaient remettre leur rapport, leurs photos, leurs journaux. Le 12 février, ils devaient aussi donner signe de vie à tout le monde. Le 12 février. Donc, du 27 au 12, on ne s'inquiète pas outre mesure.
D'accord.
Ils sont partis, ils n'ont pas de moyens de communication. Le 12, on s'attend à ce qu'ils reviennent. Le 12, ils ne reviennent pas. On ne s'inquiète pas non plus parce que des imprévus, Tristan, sur une période de 2 semaines, en randonnée dans la forêt, on s'entend-tu qu'une journée ou deux, ça peut arriver des fois qu'on ait des retards.
Oui, oui, oui.
Alors, on ne s'inquiète pas outre mesure et ça va prendre quelques semaines ou quelques jours plutôt avant que les familles finissent par dire « ce serait peut-être temps d'aller vérifier ». Ce serait peut-être temps d'aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Alors, un petit peu plus tard, là, après le 12 février, là, quelques jours plus tard, les familles commencent à s'y inquiéter et on demande aux autorités et à d'autres gens de l'école, du collège, d'aider à faire des recherches, essayer de les retrouver. Alors, on sait quel trajet ils devaient prendre, évidemment, se diriger là, du point A au point B. Alors, on sait à peu près quel chemin ils devaient prendre et on retrace leurs pas pour finalement retrouver... le camp abandonné le 26 février. Alors, on a trouvé un camp. Ils se sont installés. Ils étaient en train de camper. Et le camp est resté là. Ça, on retrouve ça le 26 février. Et là, c'est à partir de là, Tristan, que ça devient vraiment, mais vraiment étrange. Quand on a retrouvé le camp, la première chose qu'on remarque, c'est la tente. La tente est partiellement ensevelie dans la neige. On dégage un petit peu. Et là, on réalise que la tente a été coupée. Il y a des ouvertures qui ont été pratiquées dans la tente, mais ces ouvertures-là ont été faites de l'intérieur. Okay, c'est des gens à l'intérieur qui ont sorti par les trous qui ont été faits dans la tente.
D'accord, d'accord.
Alors, à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a trouvé la tente, on commence à faire des recherches aux alentours. Hein, on faisait un périmètre de plus en plus large. Alors, on regarde autour du campement et tranquillement, pas vite, on s'éloigne du campement pour essayer de retrouver des traces. On commence à trouver des traces de pas, Tristan. Des traces de pas de quelqu'un qui est nu-pied. On voit des gens, on voit les traces dans la tente, les coupures dans la tente. Des gens sont sortis de la tente. Et quand on trouve des traces de pas qui semblent être de quelqu'un qui s'est dirigé de la tente vers l'extérieur, les traces de pas, la personne, elle est nu-pied.
OK, c'est extrêmement curieux. J'ai
c'est
pas
spécial, hein?
Qu'ils vont être attaqués par le Bigfoot, là, tu sais.
Écoute, dans les 75 théories, on va y revenir. on va y revenir à lui.
L'homme des neiges est passé par là. Mais pour que la personne, l'un des membres de l'équipe, quitte sa tente de l'intérieur. Mais de l'intérieur, quand tu dis qu'elle était déchirée, ça veut dire qu'il y a Il a pris un couteau puis il a ouvert la tente.
Voilà, on a coupé la tente de l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un à l'intérieur qui a coupé la toile pour quitter la tente, pour sortir de la tente, pour se sauver.
Donc, on n'a pas utilisé le zipper, là.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est évidemment, là, c'est 9 personnes. C'était une tente. On avait du matériel puis une tente pour 10 personnes parce qu'à l'origine, on devait être 10. C'est pas des petites tentes, là, comme on a maintenant, là, hyper compactes. C'est quand même relativement gros comme matériel. Mais on a quand même coupé. Donc, plutôt que partir par l'ouverture normale de la tente, par la porte de la tente, si on veut, on a coupé la toile pour sortir encore plus rapidement.
Et c'était une grosse tente pour l'équipe au complet.
Voilà.
Ah, d'accord. Ok, ouais, je comprends. Il y a clairement eu un mouvement de panique à l'intérieur qui a fait en sorte qu'il fallait le zipper, la porte trop long, faut sortir.
Et voilà. À partir de là, on a trouvé des traces de pas. Dans la tente, on a trouvé la plupart, je dis la plupart parce que il va y avoir une petite exception, là. La plupart des manteaux, des chaussures, des vêtements, juste les vêtements. Là, on parle même pas là, de vêtements d'hiver pour être à l'extérieur, juste les vêtements, chandail, pantalon. Les sous-vêtements thermiques, là, on a trouvé ça à l'intérieur de la tente. Et comme j'ai dit, on a trouvé des traces de pas où la personne est nu-pied. La trace de pas, on voit la forme du pied, donc la personne n'a pas de chaussures. On suit ces traces de pas-là et on arrive à l'orée d'un bois qui est à peu près à 1,5 km de la tente. On arrive à l'orée du bois, il y a un énorme pin et sous le pin, il y a un feu qui est éteint, bien évidemment. Et on trouve deux cadavres sur le bord du feu, des gens en sous-vêtements qui font partie de l'expédition et qui sont morts d'hypothermie, du moins c'est ce qui semble être, parce que ces personnes-là sont dévêtues, ont tenté de faire un feu, le feu n'a pas vraiment pris, pas vraiment de blessures, on voit peut-être que quelqu'un serait monté dans l'arbre et aurait tombé, une des deux victimes, mais pas plus que ça, les deux personnes sont en sous-vêtements et semblent avoir péri d'hypothermie. Donc, on a 2 sur 9 qui ont été retrouvés et qui sont malheureusement décédés en sous-vêtements. Et ces personnes-là sont mortes là, d'hypothermie. Du moins, c'est ce qui semble être à première vue.
Il y a quand même, tu sais, je ne suis pas détective, Jason, mais il y a quand même des éléments, là, plus tu en parles, qui semblent être clairs pour penser que les gens à l'intérieur de la tente ont subi une attaque de quelque chose, d'un animal sauvage, je sais pas, mais que là, si deux personnes, il y a eu un mouvement de fuite générale, puis ils se sont probablement dispersés dans tous les sens, puis il y en a deux qui ont couru dans une direction, se sont ramassés à 1,5 km de la tente, ils étaient en mode survie, ils n'avaient pas eu le temps de prendre leurs vêtements, ont essayé d'allumer un feu, sont morts d'hypothermie. T'sais, il y a quand même des éléments qui commencent à apparaître.
Ben, on commence à se faire une idée, oui, on sait, bon, on a quitté la tente rapidement, on n'a pas pris le temps de se vêtir, il y a eu urgence, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est déterminer quelle urgence y a-t-il eu.
Oui.
C'est là qu'on a un problème. Donc, on trouve deux corps, sont en sous-vêtements, puis quand on dit sous-vêtements, c'est vraiment là, en sous-vêtements, là, pour se coucher, là, vraiment dévêtus, ont tenté de faire un feu, les deux sont décédés, là, je ne prononcerai pas les noms à chaque fois, parce que c'est des noms russes relativement difficiles à prononcer, mais on a 2 des 9 randonneurs qui ont été retrouvés là. On part du pain, on voit qu'il y a des traces de pas également qui quittent cet endroit-là. Alors, on les suit, on va trouver le chef d'expédition, M. Dyatlov, qui est à quelques centaines de mètres plus loin, et il semble lui aussi avoir être décédé là, durant un épisode d'hypothermie, donc gelé, il est gelé à mort. Également, une autre, Kolmo Gorova, qui, elle aussi, a été retrouvée 480 mètres au-dessus du pain, donc plus loin. Les personnes ont continué. Les recherches des 4 corps restants, on est rendu à 5. Là, il y en a 3 qui ont été retrouvés, en partant du pain, en suivant les traces de pas, dévêtus aussi dans la neige, gelés. On est morts gelés. Donc, il y en a 5 qui sont confirmés morts par hypothermie et on a retrouvé les corps. Reste 4 corps à trouver. Mm-hmm. Les 4 corps suivants vont être trouvés plus tard un petit peu. Alors, on les trouve, eux, donc dans un ravin avec un ruisseau au fond, ravin là, pas extrêmement profond mais assez pour être dangereux, on trouve les 4 corps à cet endroit-là. La chose à noter, c'est qu'il n'y a pas de traces de blessures externes sur les 5 premiers corps qui ont été trouvés, pas de cause autre que de l'hypothermie.
D'accord.
Les 4 autres corps qui vont être retrouvés, il y en a 2 qui ont une fracture du crâne, une très grave, une mineure. La fracture du crâne très grave. Il manque même une partie du crâne, une partie de l'os du crâne. Les côtes cassées, écrasées. Là. Vraiment, là, la personne a été écrasée sous un poids, une pression absolument énorme. Donc, deux autres ou deux de ces quatre-là ont aussi les côtes complètement éclatées. Et des quatre, on en a deux qui n'ont plus d'œil. Les yeux sont... Il n'y en a plus dans l'orbite oculaire. Et il y en a un qui n'a plus de langue.
Oh là là.
Alors, on les retrouve, eux, dans cet état-là, dans le ravin, ou du moins sous la neige dans le ravin, ou de la neige là, qui recouvre le ravin. Un qui est pratiquement dans le ruisseau. Les trois autres sont à différents niveaux, dont un qui est à peu près à l'extérieur du ravin, là, qui n'est pas à l'orée du ravin, si on veut. Alors là, on a retrouvé les 9 cas. 5 hypothermie, 4 avec des blessures externes. Mais les blessures externes, c'est des blessures internes, en fait. C'est des blessures... les os sont broyés, le crâne est fêlé, mais à l'extérieur, sur la peau, sur les corps mous, la peau, la chair, il n'y a pas vraiment de blessure. Il n'y a pas vraiment de marque. Alors, on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et à partir de là, les théories partent dans toutes les directions. Évidemment, on est en 1959, on intervient, on trouve les corps, on commence à tenter de faire une enquête, à tenter de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Tranquillement, il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter. On fait développer les photos des appareils des différents randonneurs pour essayer de voir est-ce qu'il y aura des indices de ce qui s'est passé. On trouve une photo où il semble avoir des espèces de boules lumineuses dans le ciel. Alors, ça vient encore plus alimenter les théories farfelues ou les plus folles qu'il peut y avoir. Et il y a des gens dans le coin qui commencent à témoigner, de dire « Ben, moi aussi, j'ai vu des affaires étranges dans le ciel un moment donné. » Mais si, il me semble, c'était comme des boules. Ça. Oui, on dit que c'était plus gros que la Lune. Bon, mettons, imaginez-vous la pleine Lune dans le ciel. Mais on dit que des boules oranges, de couleur orangée, plus grosses que ce qu'on voit de la Lune, semblent se promener dans le ciel de l'Oural une fois de temps en temps. Et ces personnes-là, ces 9 randonneurs-là, en ont pris des photos.
Ah oui, okay, dans les appareils photos des randonneurs, là, on a trouvé des clichés avec ces lumières-là.
Voilà. Alors, on se retrouve avec des photos étranges un peu, des circonstances complètement mystérieuses pour la mort de 9 personnes. C'est quand même 9 personnes, des étudiants pour la plupart, qui sont décédés. Même si c'est en 1959, écoute, ça fait scandale. Les gens veulent des réponses, les familles veulent des réponses et on veut savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, il y a une enquête qui débute là, au moment où tous les corps ont été retrouvés. Et là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. On conclut avec Tristan cette première partie d'émission-là avec la première conclusion de l'enquête avec les éléments que je vous ai donnés. On enquête et là, on termine avec la conclusion qui dit « Ces gens-là ont été victimes d'une force incroyable ou d'une force irrésistible. » C'est le bilan de l'enquête et qui, en 1990, un des enquêteurs principaux dit qu'ils ont utilisé cette terminologie-là pour laisser la porte entrouverte à une deuxième enquête ou à un retour sur les événements après avoir une nouvelle technologie ou avoir des nouveaux moyens. On voulait garder une manière de pouvoir retourner sur l'enquête. Donc, cette terminologie-là qui est ambiguë un peu, qui est très large, permettait de revenir et de dire, écoutez, on va réenquêter sur ces événements-là. Alors, on va faire la pause. On va revenir, on va parler de l'enquête de 2019-2020 et au travers de tout ça, on va exposer les différentes théories qu'il y a eu entre 1959 et 2020. Ça donne quand même 61 ans pour les gens qui, soit avec, je dirais, la science et les connaissances médico-légales ou des gens carrément dans les théories de complot, tous ces gens-là se sont prononcés en 61 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai un énorme document entre les mains comme celle-là qui est rempli de théories différentes pour expliquer ce qui s'est passé du côté de Dyatlov.
Mais c'est quand même l'horreur, ce qui s'est passé là. Pour vrai, c'est le mot qui me vient en tête. Je me mets à la place de ces gens-là, de ces jeunes-là qui partaient faire une escapade, une petite aventure plaisante entre amis. Ça s'est ramassé.
Ben oui, peu importe dans l'époque, hein, que ce soit en 1700 ou en 2020, 9 étudiants dans la vingtaine, comme ça, ou la plupart dans la vingtaine, là, puis même 38 ans, c'est pas très vieux, là, qui partent et qui, quelques jours plus tard, sont morts dans ces circonstances-là. Ça demeure dramatique, là, peu importe les circonstances, peu importe l'endroit dans le monde où ça se passe, c'est extrêmement dramatique pour ces familles-là qui continuent, hein, et c'est les familles et ce qu'on appelle le fonds Dyatlov qui permet de réouvrir l'enquête en 2019 après des années et des années et des années de pression sur le gouvernement russe. On a finalement réouvert l'enquête en 2019 grâce, entre autres, au fonds Dyatlov qui a été fondé par les familles des victimes.
C'est extrêmement mystérieux. Bien hâte d'entendre l'étude de l'enquête de 2019 et les autres hypothèses farfelues, bien sûr. Là.
Il y en a des pas pires, mettons.
Bien hâte d'entendre ça. On prend donc une courte pause. Et
oui.
Que ce soit votre fourche qui démange ou le tapis de votre salon qui sent le coyote, vous avez besoin de
la poudre Gold Bound.
Mais saviez-vous qu'en plus,
la poudre Gold Bound
peut servir à une foule d'autres choses, dont laver votre pick-up, déboucher le drain du bain rempli de cheveux, décaper un meuble en bois, vous pouvez partir un feu, éteindre un feu, dissoudre un corps, épiler une belette, exterminer une invasion de fourmis, régler votre problème de pellicule, changer l'odeur de vos vieilles bottines et guérir vos problèmes de transit intestinal.
La poudre Gold Bound.
La poudre, votre fourche ou n'importe quoi d'autre.
Nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Aujourd'hui, eh bien, on prend une machine à voyager dans le temps, comme d'habitude.
Encore?
On s'en va en 1959, c'est bien ça?
En 1959, dans le nord de l'URSS à l'époque, hein, l'Union soviétique, et on est en plein hiver, fin janvier, début février, hiver rigoureux dans l'Oural, et on a une notification Facebook. On a des jeunes étudiants qui vont faire une excursion dans le cadre de leur cours pour avoir des crédits supplémentaires, partent en excursion. L'excursion est prévue pour environ 2 semaines, mais finalement ne reviendront jamais. 9 jeunes hommes et femmes, 7 hommes, 2 femmes, qui décèdent dans des circonstances étranges entre le 1er et le 2 février.
Oui, c'est assez curieux, effectivement. Là, 5 qui sont décédés par hypothermie et 4 qui sont retrouvés dans un ravin.
Avec des blessures relativement graves, mais pas de traces externes.
C'est ça, exactement. Il n'y a pas de lacération. On voit des côtes brisées et des fractures au crâne. Donc, il y a clairement eu des coups, mais pas de tu sais, je ne sais pas comment le dire. Là. Il n'y a pas eu d'armes tranchantes.
Non.
Il n'y a pas eu d'histoire de dents non plus. C'est vraiment un coup quelque chose de massif.
Et on dit que ça ressemble étrangement à un accident de voiture à haute vitesse. Les médecins légistes ont fait cette comparaison-là. Quelqu'un qui a un accident de voiture à haute vitesse, il n'y aura pas nécessairement de sang, la personne n'aura pas nécessairement de blessures externes, mais un coup qu'on fait l'autopsie, la personne a des fractures, a des organes détruits. On a sensiblement le même scénario au moment des autopsies, des personnes qui ont été retrouvées dans leur ravin, ceux qui ont des blessures graves. Sur les 9, il y en a 6. C'est l'hypothermie, probablement. 5, certains. 1, les blessures sont relativement mineures. On parle d'une fracture du crâne, mais très mineure, qui ne serait pas la cause du décès. Et 3 qui ont des blessures graves. Les 3 qui ont des blessures graves, vraiment, on compare ça à un accident de voiture. Donc, pression, compression du corps extrême, mais pas de blessures sur les corps mous, les chairs molles. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas, comme tu as dit, là, pas de coup de couteau, pas de coup de dent, pas de coup de griffe, pas de perforation, rien de ça.
Et un petit moment avant le décès de ces gens-là, on rappelle qu'il y a eu un mouvement de panique. Ils étaient dans leur tente, une grosse tente, là où toute l'équipe était, les 9 personnes, puis il a fallu qu'on quitte la tente rapidement, sans nos vêtements, même nu-pieds parfois, en découpant la tente avec un couteau ou quoi que ce soit. Et les gens ont vraiment fui là, un peu de tout bord, tout côté. Là.
Et voilà. Donc, on est parti en mouvement de panique. Et pourtant, ces gens-là ont quand même de l'expérience. On le rappelle, là, c'est des gens qui étaient réputés pour avoir de l'expérience dans ce genre d'excursion-là. Mais on a quand même un mouvement de panique. Et le mouvement de panique est facile à suivre, étant donné qu'on a coupé la tente pour sortir. Alors là, les 5 secondes ou les 10 secondes que ça nous donnait de plus de couper la tente, alors probablement quelqu'un avait déjà quelque chose de tranchant et a décidé de couper la tente plutôt que de traverser la tente pour aller sortir à l'autre extrémité. Ces quelques secondes-là, la personne qui a pris cette décision-là jugeait que ça pourrait faire une différence, que quelques secondes pourraient faire une différence. Alors, ça nous amène ça dans les théories, mais aussi les conclusions. Fait que là, on a une enquête en 1959. L'enquête en 1959, on détermine, premièrement, qu'il n'y a pas eu de geste criminel de poser. Alors, ça, on exclut des gestes criminels parce que c'est pratiquement impossible qu'un humain donne ou cause le genre de blessure qu'on a pu voir sans avoir un instrument quelconque pour blesser la personne, donc qui laisserait des traces. Alors,
d'accord.
On dit qu'il n'y a pas de geste criminel qui semble avoir été posé. On dit également qu'il n'y a pas de créatures d'impliquer non plus. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de coyote, de je ne sais pas, de lynx, de loup, de je ne sais pas quoi, qui peut avoir été impliqué. Donc, pas de créatures sauvages non plus. Souvenez-vous, au début, pardon, excuse, vas-y.
Très important.
Oui, 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 absolument. On a parlé également, hein, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de population, de lieu, de village ou d'agglomération dans cette partie-là, mais il y a des Autochtones, les Mansi, qui habitent, c'est un peuple autochtone, le russe, qui habite ce secteur-là. Alors, on s'est posé la question dans les théories en 1959 également, est-ce que ça pourrait être ces gens-là qui ont trouvé, ont décidé que c'était une intrusion sur leur terre et qui ont décidé de réagir violemment. Encore là, deux éléments. Premièrement, on ne peut pas causer la mort de ces gens-là de cette manière-là. Et en plus, les gens ne seraient pas sortis en sous-vêtements, mourir d'hypothermie parce qu'on a décidé de les faire fuir de cette manière-là. Et les blessures causées ne peuvent pas avoir été causées par la main humaine. Et deuxièmement, les Mansi, ils sont pacifiques. En fait, ils ont souvent sauvé des randonneurs qui étaient en problème, perdus dans la nature. On les a hébergés, on les a nourris, on les a soignés pour les ramener au village. Alors, on a réussi à les sauver. Donc, ils sont réputés pour plutôt être une force positive dans ce secteur-là.
Là, on écarte trois théories, ce qui nous amène sur un terrain extrêmement mystérieux.
Ben oui, mais en même temps, si on continue avec les conclusions de 1959, on élimine certaines théories comme ça. Il reste quelques questions non résolues, mais une hypothèse qui est très terre à terre et qui fait penser que l'urgence ressentie par ces personnes-là serait bel et bien réelle, on est en pleine tempête. On est en plein blizzard. Fait que là, imaginez-vous, puis ça, c'est la conclusion de 1959, mais elle va revenir à l'avant-plan en 2020. On est en pleine tempête, il y a un blizzard épouvantable, la visibilité est quasi nulle. On est à l'orée d'un bois, mais on n'est même pas certain de la distance que le bois peut être. On décide de camper là, parce que vraiment, la température est épouvantable. On aurait marché un petit peu plus, on aurait été à l'abri dans un bois, mais on dit que la visibilité était tellement mauvaise et la difficulté d'orientation était tellement mauvaise. D'ailleurs, ils avaient dévié de leur route. On dit ils ne savaient même pas que le bois était proche. Alors, on a décidé de camper là. Deuxième élément, étant donné qu'il y a une tempête épouvantable, on dit qu'il pourrait avoir eu une avalanche ou quelque chose qui ressemble à une avalanche, un mouvement de neige ou quelque chose qui fait que quelqu'un a pris panique et a crié avalanche, a crié « on doit sortir de la tente, on doit évacuer ». On a l'impression que ce serait ce qui serait arrivé. Du moins, c'est ce qu'on dit en 1959. Et là, à ce moment-là, quelqu'un dans la tente entend « avalanche », il a son couteau entre les mains, coupe la toile, décide de sortir. Les gens sont dévêtus, sont prêts à se coucher ou à s'installer là, chaudement. On sort de la tente, il faut sortir, il y a de la neige qui s'en vient. On va mourir, on sort. Donc, quand je dis là, le 5 à 10 secondes, ça peut être ça. La personne a réfléchi, a dit, cette 5 secondes-là va peut-être servir à sauver des vies. Je coupe la tente et on sort. Fait que souvent, en 1959, on se redirigeait toujours vers cette conclusion-là. Et une fois sorti de la tente, on s'est perdu dans le blizzard, carrément. Alors, on a roulé autour de la tente, on s'est promené autour de la tente, on s'est « Ah, ben regarde, il y a un bois ici, on va essayer de se mettre à l'abri, ça va peut-être se calmer, on va essayer de faire un feu, peut-être que dans 15 minutes, une demi-heure, le vent va tomber un peu, on va retrouver notre tente. » Bref, c'est la conclusion, ou grosso modo, la conclusion de 1959. Malgré ça, il reste plusieurs éléments qui sont inexpliqués. Les blessures, oui. Les yeux qui sont disparus sur deux victimes. La langue est disparue sur une autre des victimes. On a différents éléments comme ça qui sont étranges. Et là, durant l'enquête, on se rend compte qu'il y a des victimes qui sont vêtues, donc les quatre victimes qui étaient dans le ravin, qui portent les vêtements des autres.
Ah oui.
Qui sont, eux, dévêtus. Et il y a même une personne qui a un bandage fait avec des restants de vêtements d'une autre personne qui est décédée d'hypothermie. Elle a coupé des vêtements de cette personne-là pour se faire un bandage et elle porte le manteau d'une autre des victimes. Fait que ça devient compliqué un petit peu à démêler tout ça. Mais encore là, dans la panique, dans l'énervement, on a pris ce qui était là. Puis bon, il y en a peut-être qui ont décidé de prendre des vêtements. Peut-être que les personnes sont mortes et on a décidé de les dévêtir aussi parce qu'on n'était pas vêtus pour se protéger. Bref, dans l'énervement, dans la confusion, dans tout ça, ça peut faire du sens.
Exactement. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais est-ce qu'il y a une théorie qui explique que peut-être que les cinq qui sont décédés d'hypothermie puis les quatre dans le ravin sont peut-être pas décédés au même moment? Peut-être que
Oui, bien, on pense qu'il y a eu un certain écart, mais les autopsies disent que c'est entre 6 et 8 heures après le dernier repas que les 9 sont décédés. Donc, l'écart n'est pas si grand que ça, mais oui, il peut y avoir quelques heures d'écart. Donc, peut-être qu'il y a une des victimes qui était, ou peut-être que les quatre victimes dans le ravin étaient avec les deux qui ont fait le feu. Et que finalement, bon, le feu est pas parti. Eux sont habillés un peu plus chaudement. On pense qu'on peut survivre. On part dans une direction en pensant qu'on se dirige vers la tente. En fait, on s'en va dans la direction inverse. Et là, on tombe dans le ravin. Ou bon, il arrive ce qui arrivera. C'est possible.
OK, oui.
Qu'ils aient pris la décision un peu plus tard de partir. Une chose qui est remarquée aussi, c'est qu'il y a des taux de radiation dans les vêtements de deux des victimes qui sont extrêmement élevés. Anormalement élevés.
Ben voyons donc.
Et là, on se retrouve avec la radiation et on trouve des poches de radiation un petit peu partout dans le secteur autour. Ça, c'est en 1959. De la manière qu'on l'explique, c'est que ces deux victimes-là habitent dans une ville où il y a de la production d'uranium en 1959. Les normes, les règles, encore plus en Union soviétique, ne sont pas respectées. Alors, ces personnes-là se retrouvent avec la radiation sur eux et c'est comme ça qu'on l'explique.
OK, ça fait du sens.
Ça fait du sens, oui, c'est ça, absolument. C'est quelque chose là, qui reste quand même plausible, surtout à cette époque-là, même en Amérique du Nord, là, le traitement des matières radioactives n'était pas parfait, mettons. C'était loin d'être parfait. Alors, on a 2019, on décide le 1er février 2019, le gouvernement annonce qu'ils vont réouvrir l'enquête suite aux pressions des familles et de la Fondation Dyatlov. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec une nouvelle enquête. On va avoir les documents d'enquête originaux qui vont être ressortis des archives secrètes. Et on se rend compte bon, qu'il manque certains éléments. Il y a certains éléments qui ont été, on peut le dire, rédactés, là, qui ont été cachés, qui ont été biffés. Mais on a quand même la plupart des informations. Et on décide de refaire une enquête. On part des 75 théories originales et on a réduit ça à 3 théories seulement qui étaient les plus plausibles, on pourrait dire. Alors, on y va avec la théorie qu'on aurait eu encore une fois une attaque externe, que ce soit par les mancis, que ce soit par une créature sauvage ou bon, peu importe. Mais
excuse-moi, Jason, oui. cette théorie-là, c'est les trois théories qui sont sorties en juillet de cette année?
Oui, exactement. On est allé avec ça. Évidemment, les théories, on a pris 2 théories juste pour satisfaire l'opinion publique parce que l'enquête elle-même tournait encore une fois sur l'avalanche, conditions météo. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a causé cette fameuse épisode-là où les 9 personnes sont décédées. Pris dans la tempête, on croit qu'il y a une avalanche qui arrive et là, tout s'enchaîne et c'est un effet domino. C'est vraiment la cause qu'on voulait étudier en 2019, mais on a quand même été chercher là, d'autres causes possibles. Dans les 75, là, on est allé avec quelques-unes qui étaient un peu plus proches de peut-être être possible. On ne parlera pas d'extraterrestres, on ne parlera pas d'ovnis. On ne parlera pas de tests d'armes chimiques ou radioactives. On y a vraiment été avec ce qu'on avait comme les points les plus plausibles. Fait qu'il y avait les fameuses photos avec, tu te souviens, des sphères oranges?
Oui, les sphères oranges.
Les sphères oranges. Alors là, on étudie, est-ce qu'il y avait des tests? Parce qu'en 1959, il pourrait y avoir des tests militaires. Et c'est une région éloignée, on le sait, on faisait des tests militaires. Les États-Unis aussi, ils allaient sur des atolls, des îles non peuplées, on testait des armes nucléaires. Là, on faisait la même chose en Russie, en URSS à l'époque, dans le nord où c'était pas habité. Fait que ça aurait été une possibilité. C'est pas concluant. On n'arrive pas à cette conclusion-là. On arrive également avec, comme je disais là, force extérieure, donc les mancis ou créatures sauvages, pas de preuve de ça non plus. Alors, on arrive exactement à la même conclusion qu'en 1959, c'est des conditions météo. Et là, pour expliquer les blessures des gens qui ont été retrouvés, parce que c'est souvent ça qui revenait. Si c'est ça qui est arrivé, comment ça qu'ils sont maganés comme ça? Alors, on dit que les quatre personnes qui étaient blessées gravement auraient été blessées, un, en tombant dans le ravin, et deux, la quantité de neige qui s'est retrouvée par-dessus les corps par la suite a créé 4 mètres de neige là, sur vous, de la neige lourde, c'est assez pour écraser.
Okay.
Alors, c'est comme ça qu'on explique les côtes cassées, le crâne fracassé et les différentes blessures que ces quatre-là avaient. C'est la chute dans le ravin qui, par la suite, a été ensevelie de neige. Alors, toute la pression de la neige a écrasé les corps.
Il y a quand même une blessure qui s'explique mal, celle de la personne qui lui manquait ses yeux puis l'autre sa langue.
Ben, encore là, le médecin légiste dit que c'est pas si étrange que ça et c'est pas faux. Parce que premièrement, dans le fond du ravin, il y a un ruisseau. Le ruisseau, il y a de l'eau de ruissellement. Fait que même s'il y a de la neige, il y a une poche qui s'installe entre les deux. Et on dit que la victime qui avait le visage le plus ravagé avait une partie du visage dans l'eau. Donc, la décomposition s'est quand même passée et... Étant donné qu'il y a de l'espace, les animaux sauvages vont toujours aller vers les chairs les plus molles. C'est dégueulasse, là, mais vont toujours aller vers les choses les plus molles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus mou que des yeux? Et la langue, qui est facilement accessible également. Alors, on dit que ce serait tout à fait normal dans ces circonstances-là que ce genre de blessure-là, qui est très spectaculaire quand on les découvre, est très mystérieuse, mais en réalité, un cadavre qui est laissé dans la nature pendant plusieurs semaines, c'est ce qui va arriver.
Wesh!
Alors, au final, la conclusion de 2020 est à peu près la même et on pousse plus loin encore là, en établissant le fameux scénario que je vous ai donné tout à l'heure. On coupe la tente, on sort d'urgence et là, il y a une confusion totale qui s'installe avec une visibilité nulle et on se perd dans la forêt et on meurt.
Et pour l'avalanche, là, est-ce que cet endroit-là, on sait s'il y avait comme une...
Ah, là, tu soulèves un point, Tristan, qui est encore matière à débat, justement. Historiquement, il n'y a jamais d'avalanche dans ce secteur-là. Jamais. Pas juste des fois. Pas juste, c'est rare. Non, il y en a jamais.
C'est ça, parce que j'ai vu un documentaire l'autre fois sur les avalanches, puis il disait que ça prenait quand même une avalanche, là. C'est fou à quel point ça prend un coin escarpé dans une montagne très, très à pic avec une accumulation de neige. Bref, faut que ça soit... T'sais,
c'est pas comme dans les films, hein, quelqu'un qui éternue puis la montagne au complet se détache. Là, c'est pas comme ça que ça se passe.
Exactement. Puis s'il n'était pas près d'un endroit, d'un secteur à risque, comme tu dis, s'il n'y en a jamais eu là, c'est très curieux. Parce que s'il avait été, mettons, en plein milieu de la montagne, au pied de la montagne, ben là, il n'était pas.
Non, pas nécessairement. Et en plus, il y a de la végétation pas très loin. Une végétation qui habituellement va ralentir également. Si jamais là, il y a une avalanche, habituellement, s'il y a une forêt, une lisière de forêt, ça va arrêter la neige. Alors, conclusion de juillet 2020, Tristan, n'est pas encore satisfaisante pour beaucoup de gens pour exactement la raison que tu viens de soulever.
Ah,
t'as mis le doigt dessus.
Parce qu'il y a un côté très pragmatique en moi qui me dit que ça fait bien du sens, ça. Si on veut une explication logico-pratique, là, me semble une avalanche, une tempête, ça expliquerait tout ça, mais là, si c'est pas un coin à avalanche, ben là, je suis perdu.
Ben oui, sauf qu'il y a aussi, à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation, si ça fait 2 jours qu'il y a un blizzard épouvantable, qu'on est perdu, je vous l'ai dit, ils étaient désorientés un peu, on déviait de leur objectif un peu, on est perdu, ça fait peut-être 2 jours qu'on voit plus rien, il peut y avoir une certaine folie qui s'installe à un moment donné aussi, une certaine confusion mentale qui s'installe. Et là, s'il y en a un dans la gang qui, lui, est rendu un peu plus confus que les autres et il est convaincu qu'il voit ou entend une avalanche qui s'en vient, ça peut être l'élément déclencheur pour une espèce d'hystérie collective dans le groupe au complet qui fait que tout le monde part dans sa direction et là, on se perd et on est complètement là, désorganisé. Ça pourrait être une possibilité. Alors qu'il n'y ait pas eu vraiment d'avalanche, mais qu'on ait atteint un point, à un moment donné, de désorganisation mentale qui fait que quelqu'un a cru voir une avalanche et là, ça l'a déclenché là, une panique généralisée et une confusion généralisée. Ça serait une possibilité.
Ah, ça moi, je vote pour ça, moi.
Ben, moi aussi, je vais te dire honnêtement, c'est ce qui fait du sens. Et le fait que les corps se sont retrouvés dans le ravin s'est rempli de neige, les corps ont été écrasés par de la neige lourde, moi, ça me satisfait. ça me satisfait. Fracture du crâne, on a tombé, on a une tuque, on a... Mais l'impact des roches en tombant dans le ravin, il n'y a pas nécessairement de marque externe parce que j'ai quand même quelque chose pour me protéger du froid, mais le choc est assez fort pour briser mon crâne. J'achète ça aussi.
Mm-hmm. Ah oui, puis tu sais, le mouvement de panique, ça peut effectivement, ça peut tout changer. Là. Mini parenthèse, là, à un moment donné, un de mes amis puis moi, on était partis très tôt le matin, en plein hiver, dans l'Estrie au Québec, là, dans la forêt, pour aller escalader une montagne au loin, qui était à pas loin du Mont Offord, là, mais une autre montagne. Et puis, c'était très dangereux et imbécile, là, je l'avoue, on était jeune, on avait comme peut-être 15-16 ans, tu sais, puis on est parti très tôt le matin au lever du soleil avec l'équipement, de la nourriture, puis on s'est dit on va piquer dans le bois, direction la montagne. Et puis, à un moment donné, le temps passe. On a réussi à atteindre le sommet de la montagne en peut-être 6 heures. Tu sais. Puis là, on redescend, puis là, on revient, puis là, à un moment donné, on voit, tu vois, le soleil qui se couche. Puis là, on s'est rendu compte que le temps a passé beaucoup plus vite qu'on pensait. Puis on a commencé à halluciner des loups.
Ah oui, ben c'est ça.
On était dans la pénombre, là, il commençait à faire noir, puis on était en mode panique parce qu'on avait peur de rester pris dans le bois la nuit. Et puis on a commencé à accélérer, on n'avait plus d'énergie. Et chaque pas qu'on faisait, là, on renfonçait dans la neige, puis on a commencé à halluciner des loups. On voyait des traces de loups. On était sûr qu'il y en avait qui nous espionnaient autour de nous, qui nous suivaient, qui allaient nous manger.
Donc, ben, c'est un excellent exemple, ça. Bon, eux étaient beaucoup plus expérimentés, mais ça reste que si ça fait 2 jours que tu ne réussis pas à avoir plus qu'à à quelques centimètres devant toi, t'as beau avoir une carte, t'as beau avoir une boussole, t'as beau avoir beaucoup d'expérience en orientation, mais à un moment donné, tu te rends compte que t'arrives pas à ton objectif, t'as dévié complètement, tu vois rien, le découragement s'installe, on décide de monter la tente dans ces conditions-là, on rentre dans la tente, on doit se dévêtir parce que nos vêtements sont complètement mouillés, et là, on est dans cet état-là, et là, il y a quelqu'un à l'extérieur qui dit « Avalanche! » Là, j'imagine, là, ça doit être là, vraiment le moment où mon cerveau il dit « Pfiou! Fini! Ouais. » Moi, là, je décroche. C'est fini. J'imagine, rendu là, ça doit être assez pour faire complètement là, décoller quelqu'un.
Absolument, absolument. Pour avoir passé même juste une journée, tu sais, 2 jours dans le bois, à la fin, la panique commençait à s'installer. J'imagine pas, comme tu dis, là, 2-3 jours dans un secteur où tu vois plus rien. Tu sais, quand t'es perdu, quand tu commences à être perdu, la terre est tellement grande,
c'est en Russie, dans ce coin-là, se sent minuscule.
C'est ça, exact. C'est, tu peux te perdre, puis là, quand tu te perds, tu t'imagines tous les pires scénarios, et eux, malheureusement, ils ont vécu le pire des scénarios.
Et voilà, et en plein blizzard, ben, ils étaient à 1,5 km de la tente. Là. Pour des randonneurs expérimentés comme eux, c'est rien 1,5 km, c'est rien. Malgré ça, n'ont jamais pu revenir à la tente. Il n'y a jamais un des 9 qui a réussi à revenir à la tente. Jamais qu'on a trouvé quelqu'un qui était sorti de la tente d'urgence dans ce moment-là, qui a réussi à y revenir. Il n'y a aucune trace de pas, il n'y a aucun trajet qui revient à la tente, malheureusement. Il y en a qui s'étaient rapprochés de la tente, mais ne l'ont quand même pas trouvé. On finit par tomber mort, gelé dans la neige. Et les 4 autres qui probablement continuaient de chercher parce qu'eux étaient habillés un peu plus chaudement, ont pu survivre un peu plus longtemps. On finit par tomber dans un ravin parce que probablement qu'ils ne voyaient même pas où ils se dirigeaient.
Et au niveau des statistiques, en fait, des faits au niveau de la météo, c'est prouvé qu'il y avait
une tempête? Oui, il y avait du méchant temps. Il y a certaines personnes qui contestent que bon, les rapports ne sont pas suffisamment précis, qu'il manque certaines données. Mais d'ordre général, on s'entend que oui, il y avait eu du mauvais temps à ce moment-là. Il y en a qui le contestent. Dépendamment où on regarde, là, ça peut arriver qu'on va trouver des gens qui disent « Non, il n'y en avait pas de tempête », mais ça ne semblait pas être le point le plus litigieux dans les contestations des gens. Ça reste que on n'est pas satisfait des résultats de l'enquête de 2020. Il y a beaucoup de points qui reviennent. On dit que l'armée a été impliquée, qu'on a tenté de noyer le poisson en 1959, qu'il y a des données qui n'ont jamais été compilées, qu'il y a des informations qui n'ont jamais été rajoutées dans les rapports, qui ont été enlevées, et là, que là, on est arrivé en 2019, et qu'il manquait de l'information, qu'il manquait des données. Alors, on n'est toujours pas satisfait. Je dirais que il y a peut-être plus de gens qui sont satisfaits maintenant qu'en 1959, mais il reste une bonne base de gens qui sont convaincus que certaines choses qu'on ne sait pas encore à propos de ce fameux drame de Dyatlov. On pourrait probablement faire une saison complète sur le sujet, tellement il y a de l'information. On pourrait faire une émission d'une heure juste sur les 75 théories que j'ai devant moi. On pourrait, après ça, y aller avec les différents auteurs russes qui ont essayé d'avoir accès aux rapports, qui n'ont pas été capables, ils en ont eu des parties, puis là, ils ont décidé de romancer le reste. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel dans le roman? On le sait pas. C'est énorme. Mais je reviens, moi, terre à terre, très pragmatique, très, très, très cartésien. L'explication de la panique généralisée en plein blizzard, moi, ça me satisfait.
Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de sens, tout ça. Est-ce qu'il l'explique dans 2020, cette théorie-là?
Oui, on a créé un scénario complet là, de A à Z, justement, avec cette théorie-là. On parle encore d'avalanche. C'est là que j'ai l'impression que dans la conclusion de 2020, qu'on parle encore d'une avalanche, alors qu'on le sait qu'il n'y en a pas d'avalanche dans ce secteur-là. D'après moi, c'est une erreur. On ne devrait pas faire ça, mais plutôt regarder l'élément psychologique qui pourrait amener à un mouvement de panique. Mais là, on s'entête à dire que c'est des conditions météo incluant une avalanche. Et je pense que c'est là où ça fait réagir beaucoup les gens qui reviennent avec l'argument qui est tout à fait valide de dire « Mais il n'y en a pas d'avalanche dans ce coin-là. » Alors, on n'est pas satisfait de l'explication, principalement à cause de ça.
Donc, la théorie la plus probable, en tout cas, moi, je suis d'accord pour dire que c'est vraiment le sentiment de panique, là, sans avalanche. 3 jours perdus, ça fait combien de temps? 2 jours ou 3 jours?
En fait, c'est depuis le 27 janvier, on est le 1er février. On le sait que quand on est arrivé au point où on a retrouvé le campement, ils avaient dévié. Dans leurs journaux, c'est aussi écrit qu'ils se sont perdus, pas vraiment perdus, mais qu'ils sont pas tout à fait sur le chemin qu'ils devraient être. Ça donne l'impression que oui, on n'était pas nécessairement dans les conditions optimales à ce moment-là. Donc, peut-être qu'on était carrément perdu et qu'on tentait de se retrouver et qu'on a été coincé dans le blizzard. Alors, ça fait une période d'à peu près 4 à 5 jours avant les décès là, où on a retrouvé, pas on a retrouvé, mais plutôt où on a vécu cet événement-là, le cataclysmique là, qui a fait qu'on a eu 9 décès.
C'est tannant quand même, dans le sens où ça nous prendrait une DeLorean comme dans le film.
Il faudrait retourner dans le temps, exactement.
Pour aller voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais la théorie de l'hystérie collective, selon moi, ça fait quand même plus de sens que les autres théories.
Oui, puis là, je vais y aller avec certaines théories, puis je vais aller passer en rafale, là, parce qu'il y en a énormément. Il y a une des théories qui dit que deux des membres de dépendamment de où on regarde, là, c'est 2 à 4 membres de la randonnée, ou 2 à 4 randonneurs, étaient des membres du KGB, et qu'ils se sont infiltrés plus ou moins dans ce groupe-là qui allait faire une randonnée dans ce secteur-là précis, parce qu'on s'attendait à trouver des agents de la CIA, des agents américains cachés dans la forêt de l'Oural. Alors, leur objectif à eux, c'était de débusquer ou de trouver ces agents-là de la CIA. Alors ça, c'est une des théories. Là, ça l'aurait mal viré une fois là, rendu dans la forêt. On a dit que également, ça pouvait être les 9 randonneurs ont été... on s'est mépris sur leur identité. On pensait que c'était des fugitifs des goulags, là, des fameux goulags russes à l'époque, les écoles, ou pas les écoles, mais les camps de rééducation et tout ça. On dit qu'on aurait pu se tromper et penser que ces 9 personnes-là étaient des fugitifs, alors on les aurait exterminés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des tests militaires, ça, il y en a 22 théories différentes, là. On parle de radiosondes, entre autres, qui seraient des ondes qui peuvent broyer les eaux à distance sans laisser de traces.
Ah là là,
d'accord. Les forces spéciales, ben encore là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, des agents du KGB ou des agents qui étaient des agents secrets parmi le groupe, dont un, j'oublie son nom et malheureusement, là, je ne réussirai pas à le trouver, à le dire comme il faut, mais un des randonneurs, on disait que c'était douteux. On n'était pas certain s'il était bel et bien parmi les victimes, s'il n'avait pas remplacé son corps. Ça, c'est une des théories. Et elle a été tellement poussée, cette théorie-là, qu'on a exhumé le corps. Justement, ça va en lien là, avec le KGB et tout ça. Et on a exhumé le corps de cette personne-là pour faire des tests d'ADN dans les années 2010-2011. Et on a conclu que c'était bel et bien la personne qu'on croyait. Alors, cette théorie-là est morte. Mais on disait que lui était possiblement un agent double ou triple et qu'il aurait assassiné tout le monde pour protéger son identité et aurait ajouté un cadavre qui n'était pas le sien pour pouvoir se sauver par la suite. Et ça a été rejeté, ça aussi, là, dans les fameuses théories des services secrets.
J'imagine qu'on a aussi des théories d'extraterrestres.
Ben oui, bon, j'ai parlé des Mansi, là, les peuples autochtones. Ça a été complètement rejeté. On a parlé de drogue. Oui, les drogues. Les drogues, ouais. Tristan.
Ben oui, ça se. Ouais, ouais, dans le sens.
Ah, on parlait de confusion mentale tantôt. Hein? Ben confusion oui. mentale. C'est pas exclu. C'est pas exclu pour certains. Ça ferait même du sens que, bon, c'est des jeunes dans la vingtaine. On a amené certaines substances hallucinogènes avec nous. Puis on dit, ben, on va avoir un petit peu de plaisir ce soir, les gens. On va avoir. On va voir des belles aurores boréales, des étoiles filantes et plein de choses. Mais que ça aurait dégénéré. Et on arrive à la même conclusion sensiblement. Que celle que nous, on arrive avec la confusion mentale à cause, bon, on est perdu dans la. Mais on rajoute les drogues par-dessus ça. Moi, je n'ai pas de misère non plus.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu le retracer, ça, dans le.
Ben, justement, on dit qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Les tests sanguins n'ont rien donné. Des tests faits sur des prélèvements d'échantillons d'organes, on n'a jamais trouvé les résultats. Alors, on ne le sait pas. Et on le saura jamais.
Ah, bon sang. Okay. Mais la théorie est très, selon moi, ça se pourrait.
Encore là, ça revient sensiblement à ce que nous, on disait tout à l'heure, mais au lieu d'être la confusion à cause qu'on est perdu, qu'on a faim, qu'on a soif, peu importe, qu'on est dans la forêt, il y a un blizzard, mais là, ce serait la confusion causée par des drogues hallucinogènes, ce qui n'est pas faux. Ça, d'après moi, ça pourrait avoir du sens aussi.
Ben oui, effectivement.
T'as parlé des extraterrestres tantôt, la fameuse photo avec les globes ou les sphères orangées, ça n'a jamais été expliqué. Jamais, jamais, jamais que ça a été expliqué ou adressé. Alors, on le sait pas et on le saura jamais et on s'est jamais penché sur la question, mais ça ouvre la porte aux fameuses théories d'extraterrestres. Et là, il y en a plein. Théorie, les extraterrestres sont juste là, mais sont très radioactifs. Onde de choc créée par les vaisseaux extraterrestres qui a écrasé les os des victimes qui étaient blessées. Il y en a plein, là, des théories comme ça qui tournent autour des extraterrestres.
Je sais pas pourquoi je viens de voir une image épeurante, Jason. J'ai regardé le film Le Signe dernièrement.
Oui.
Imagine l'horreur, la peur. T'es dans la tente, dans la forêt, dans le noir, en Russie. T'as faim, t'as froid, puis là, c'est la tempête, et puis là, t'entends le fameux son, là, tu sais, des extraterrestres dans le signe. Je pense que c'est...
Oui, c'est ça, c'est pas très impressionnant, mais en même temps, on dirait que c'est que ça fait encore plus peur.
Exactement, alors je crois pas à ça, c'est clairement pas ça, mais j'aime ça me faire des peurs. Comme
ben
ça.
Oui, ben écoute, c'est qu'il y a pas de témoins, en plus. Puis, on a quand même quelques éléments inexpliqués. Bon, il y a la radiation dans les vêtements de certains membres de la randonnée qu'on explique avec le fait qu'ils habitaient près d'une usine où on fabriquait de l'uranium. Mais ça reste quand même qu'on ne peut pas le prouver. On ne peut pas savoir à quoi ressemblaient ces fameuses sphères oranges. On a une photo, mais une photo qui n'est pas claire du tout, qui n'est pas... Alors, on ne le sait pas plus, mais ça ouvre la porte à tout plein d'autres théories. Écoute, on a parlé tantôt de notre ami Bigfoot.
Oui,
ami Bigfoot, hein, ben oui. Alors, Bigfoot qui fait partie des théories ou qui en a fait partie également. Alors, le Bigfoot qui, soit le Bigfoot, le Yeti, il y a aussi le Menk, M-E-N-K, qui est une créature similaire là, à Bigfoot qui habiterait dans cette région de l'Oural. Alors, il y a des gens qui l'ont ramené également en disant, mais le Bigfoot, il est fort. Lui, il peut casser les os. Alors, ça expliquait. Fait que, dans le fond, il a juste voulu leur faire un câlin. Il les a écrasés.
Encore une fois, il y a plusieurs sujets qu'on a couverts, Jason, qui peuvent facilement être reliés à cette histoire.
Absolument.
On pourrait ajouter le Wendigo tant qu'à ça.
Moi, ben je oui. C'est le Wendigo. Ben, pourquoi pas? Un loup-garou? Peut-être. On sait pas.
Ça reste triste, cette histoire. Est-ce qu'il y a eu des films, des séries?
Oui, il y a eu des films, il y a eu des séries. Il y a même un jeu vidéo là, qui s'appelle... écoute, là, je le trouve le nom parce que... Je ne vais pas me tromper, étant donné que c'est pas des noms. Voilà, Colat. Colat, là, qui est un jeu vidéo où on peut revivre ou retracer le parcours, justement, de ces randonneurs. Il y a eu également, dans les livres, Dead Mountain, The Untold Story of the Dyatlov Pass Incident, Death of Nine, encore une fois, là, la même chose, Mountain of the Dead, c'est trois livres qui peuvent être facilement retrouvés là, de nos jours et qui... retrace plus ou moins l'histoire parce que c'est immense. Là, on fait à peine effleurer la surface aujourd'hui. Et il y a le film Devil's Pass 2013, un drame d'horreur qui malheureusement n'a jamais vraiment levé. Je ne l'ai pas vu. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air. C'est-tu bon ou c'est-tu mauvais? Je le sais pas.
OK. Donc, il y a eu un film aussi.
Oui, exactement. D'autres théories, rapidement, on parle de la fameuse expérience de Philadelphie qui pourrait même, à elle seule, faire un sujet de dossier bizarre où on essayait de téléporter des choses. La fameuse expérience de Philadelphie, là, qui il y a un film également là, ou deux qui sont sortis là-dessus, mais on dit qu'on aurait tenté de faire la même chose. Et c'est un peu le sujet qu'on aborde dans le film de 2013, le Devil's Pass. Je n'en sais pas plus sur le film, mais c'est la théorie qui est abordée dans le film. On parle de ball lightning, des éclairs en boule. J'en ai déjà parlé d'un autre podcast, d'un autre épisode, je me souviens plus pour quelle raison, mais ça existe. Des éclairs qui, au lieu de faire une ligne entre le ciel et la Terre, forment une boule qui peut se déplacer dans l'atmosphère pour une certaine période de temps, pas très longue. Et on dit que ben, les sphères, c'était peut-être ça. Et peut-être qu'ils ont été frappés par ces fameuses sphères-là qui les auraient tués. Écoute, je pense que je n'ai même pas la moitié des feuilles des théories passées, Tristan. C'est ridicule. Fluctuation de la gravité. La gravité a augmenté soudainement. Ça a écrasé des gens. Un vent mystérieux qui aurait tué ces gens-là. Il y en a. Empoisonnement au méthanol. Altercation entre les randonneurs. Altercation avec un autre groupe de randonneurs. Et celle-là, je l'aime bien. On en a parlé, l'hystérie collective qui aurait pu arriver. Et la dernière, la mort par skidoo. Ben oui, il aurait été frappé par des motoneiges. C'est la dernière dans la liste. Je les ai pas toutes nommées parce que, écoute, il y en a tellement qui se ressemblent. Là. Juste pour les extraterrestres, je pense qu'il y en a 8 là, différentes, mais ça se revient tout à la même chose. Moi, je vous dirais, là, j'ai tendance à dire que le dossier est relativement clos quand on regarde les conclusions de 2020. Oui, il reste certaines questions qui ne sont pas répondues, mais ça reste quand même là, quelque chose qui est relativement, selon moi, facile à imaginer le moment où on est dans l'attente, la panique pogne, puis à partir de là, tout dégénère, puis malheureusement, là, il y a 9 vies qui ont été perdues suite à ça.
Ben oui, ça fait beaucoup de sens. J'ai lu le guide de survie canadien, Jason, en forêt. Puis ils disent que l'un des pires ennemis en forêt, dans le bois, la nuit ou quand t'es perdu.
C'est notre tête.
Exactement. C'est notre imagination qui va nous faire paniquer, qui va nous créer des sentiments qui vont complètement ruiner notre survie en forêt.
Ben oui.
Faut vraiment faire attention à ça. Ils disaient que c'était ça. C'était notre propre. Les pires ennemis, c'était le froid et ce mouvement de panique-là, là, l'hystérie, la peur qui nous joue des tours et qui nous empêche de penser correctement.
Et voilà. Alors, écoute, c'est un dossier gigantesque. J'aurais pu, puis écoute, j'ai peut-être été 3-4 jours là, vraiment intensément plongé dans le dossier de Dyatlov et puis j'ai l'impression d'avoir à peine creusé l'essentiel juste du côté enquête, conclusion, les différentes théories, mais je pense qu'il y a tellement plus que ça. Pas nécessairement pour arriver à une conclusion différente, mais il y a beaucoup, tu sais, comme j'ai dit, il y a un des enquêteurs principaux qui, dans les années 90, a commencé à parler qu'on avait mis la pression sur lui pour fermer le dossier quand il a commencé à vouloir explorer les fameuses sphères oranges. Et là, lui, il a ouvert la porte un peu aux extraterrestres. En 2000, il est décédé. Sa fille revient devant les médias pour dire « Il a dit ça juste pour attirer l'attention. » Dans le fond, il voulait qu'on rouvre l'enquête, mais il ne croit pas aux extraterrestres. Mais il a utilisé cette stratégie-là parce qu'il savait que ça attirait l'attention des médias locaux et internationaux si on parlait des extraterrestres. Alors, il y a comme eu plein de revirements de situation comme ça au fil des années, mais ça reste un dossier chaud. C'est un peu comme l'équivalent de l'assassinat de John F. Kennedy aux États-Unis. Mais en Russie, ben eux autres, c'est le drame de Dyatlov qui revient régulièrement dans les conversations. Les gens, un soir, là, c'est sombre, la télé est brisée, il n'y a plus d'électricité, on prend une bière avec les amis. Là. Tu penses de ça, toi, Dyatlov? Et là, c'est parti. Et là, c'est parti, les gens amènent leurs théories, puis on explore, on part dans des fantaisies. Alors, on dirait que ça fait juste grossir de plus en plus. Et plus ça va, plus il y a de théories, plus il y a d'opinions, plus il y a de gens. Il y a des opinions très scientifiques, il y en a d'autres très fantaisistes, mais ça vient s'ajouter à tout ça. Et ça a comme pris vie, ce phénomène-là, ce drame-là. Il y a une vie en lui-même et il continue, il va continuer. Et peut-être que dans 20 ans, on va réouvrir les archives et on va en reparler, mais ça continue, on dirait. Et on sera jamais satisfait. Parce qu'on veut que le mystère persiste, on dirait.
C'était un sujet extrêmement intéressant que j'ignorais totalement. Et ça me donne le goût de creuser un peu. Mais tu nous as extrêmement bien décrit l'histoire qui est vraie. Hein? Des fois, on parle de l'histoire totalement fictive, là, fictif comme le Bigfoot. Tout ça, ça reste des légendes, des mythes. Mais cette histoire-là, je rappelle que ça s'est vraiment passé.
Eh oui, malheureusement, il y a vraiment 9 personnes qui sont décédées entre le 1er et le 2 février 1959, en pleine forêt.
Ah, barouette, ça me donne pas le goût de sortir.
Mais non, on va rester dans la maison.
On va rester à la maison, tranquille.
Hey, Tristan, merci.
Merci à toi, Jason.
Ben oui, c'était le fun.
Ça me fait penser, là, vite, tu sais, quand j'avais parlé du Stone Age.
Oui.
Début du 20e siècle, là, en 1900, qu'on avait trouvé des os, tu sais. Mm-hmm. Puis on n'avait pas assez de techniques scientifiques de recherche, fait qu'on les a renterrés dans le sol.
Oui, oui, oui.
Puis c'est comme 100 ans plus tard qu'on est revenu, qu'on a redéterré les os. Mais ça me fait penser un peu à ça, tu sais. En 1959, on crée une petite enquête broche à foin, mais on n'est pas assez avancé, on dirait, pour comme trouver des réponses. Puis en 2020, bang, on ressort une étude plus poussée, plus détaillée, avec des analyses scientifiques.
À l'époque, on avait rapidement clos l'enquête. On avait blâmé, si je me souviens bien, un responsable bénévole d'un club de randonnée parce qu'on avait besoin d'un coupable en disant qu'il organisait mal les randonnées ou quelque chose. On avait trouvé comme vraiment, là, dire rapidement, là, on va blâmer lui, on va conclure ça, puis on ferme ça, là, on ferme les livres là-dessus. On sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça nous tente pas vraiment de chercher parce que, admettons, les policiers sont pas au courant, admettons, d'expériences militaires qui se font dans le secteur. Ça leur tente pas nécessairement. Il faut se remettre dans l'URSS de 1959. Moi, je suis un petit policier de village. Ça me tente pas de mettre la main dans l'engrenage militaire et me rendre compte que, oh, 9 personnes qui sont mortes à cause d'un test d'une arme secrète. Et là, moi, je suis le petit policier qui vient de mettre la main là-dessus. Ça me tente pas vraiment. Parce que je le sais ce qui va m'arriver si jamais j'ai le malheur de mettre la main là-dessus. Alors, on a probablement voulu éviter carrément d'enquêter trop loin pour ne pas tomber sur des secrets qu'on n'aurait pas voulu connaître.
Mm-hmm, une enquête démesurée pour l'époque. Qui sait ce que le futur nous réserve maintenant qu'on a une capacité d'enquête beaucoup plus élaborée.
Ben voilà.
Peut-être qu'on va trouver des réponses à d'autres mystères comme ça là, que le passé nous a cachés.
Sait-on jamais?
Exactement. Merci beaucoup, Jason.
Hey, ça me fait plaisir.
Pour ce sujet, et on se retrouve bientôt en décembre. Ben oui. On va refaire d'autres épisodes, certainement, pour le fun.
Ben, toujours.
Merci beaucoup, Jason.
Hey, merci, bye.
Merci d'avoir été là.
Ben oui, puis merci à tout le monde de nous suivre, de nous écouter. Je sais que vous êtes impatients entre les épisodes. On essaie le plus possible là, d'être régulier, mais c'est pas évident dans ce temps-ci. Mais on vous remercie de votre patience. Vous êtes vraiment le meilleur groupe de fans de l'univers.
Absolument! Merci! Merci beaucoup, Jason! Merci
bye
tout
bye.
Le monde!
Salut! Merci bye bye! Monde. L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Ici José Théodore, l'ancien gardien de but du Canadien. Est-ce que, comme moi, ton plus grand cauchemar serait d'avoir plus de cheveux? Alors, ne crains plus rien grâce à mon nouveau produit, Les Cheveux de José. Les Cheveux de José est un produit 100% original, fait entièrement de Propecia, mais avec ma face sur la bouteille. Grâce aux cheveux de José, tu ne perdras plus jamais tes cheveux, mais tu ne pourras pas non plus aller aux Olympiques. Disponible dans toutes les bonnes quincailleries.